de la sagesse des hommes. Ce n'est pas la hauteur, c'est la pente qui est terrible. La pente d'où le regard se précipite dans le vide et d'où la main se tend vers le sommet. C'est là que le vertige de sa double volonté saisit le cœur. Hélas, mes amis, devinez-vous aussi la double volonté de mon cœur ? Ceci est ma pente et mon danger quand mon regard se précipite vers le sommet, tandis que ma main voudrait s'accrocher et se soutenir dans le vide. C'est à l'homme que s'accroche ma volonté. Je me lie à l'homme avec des chaînes, puisque je suis attiré vers le surhumain. Car c'est là que veut aller mon autre volonté. Et c'est pourquoi je vis aveugle parmi les hommes, comme si je ne les connaissais point, afin que ma main ne perde pas entièrement sa foi en les choses solides. Je ne vous connais pas, vous autres hommes. C'est là l'obscurité et la consolation qui m'enveloppent souvent. Je suis assis devant le portique pour tous les coquins et je demande « Qui veut me tromper ?» Ceci est ma première sagesse humaine de me laisser tromper pour ne pas être obligé de me tenir sur mes gardes à cause des trompeurs. Hélas, si j'étais sur mes gardes devant l'homme, comment pourrait-il être une ancre pour mon ballon ? Je serais trop facilement arraché, attiré en haut et au loin. Qu'il faille que je sois sans prudence, c'est là la providence qui est au-dessus de ma destinée. Et celui qui ne veut pas mourir de soif parmi les hommes doit apprendre à boire dans tous les verres. Et qui veut rester pur parmi les hommes doit apprendre à se laver avec de l'eau sale. Et voici ce que je me suis souvent dit pour me consoler. « Eh bien, allons, vieux cœur, un malheur ne t'a pas réussi, jouis-en comme d'un bonheur. » Cependant, ceci est mon autre sagesse humaine. Je ménage les vaniteux plus que les fiers. La vanité blessée n'est-elle pas mère de toutes les tragédies ? Mais où la fierté est blessée, croit quelque chose de meilleur qu'elle. Pour que la vie soit bonne à regarder, il faut que son jeu soit bien joué. Mais pour cela, il faut de bons acteurs. J'ai trouvé bons acteurs tous les vaniteux. Ils jouent et veulent qu'on aime à les regarder. Tout leur esprit est dans cette volonté. Ils se représentent, ils s'inventent. Auprès d'eux, j'aime à regarder la vie. Ainsi se guérit la mélancolie. C'est pourquoi je ménage les vaniteux, puisqu'ils sont les médecins de ma mélancolie, et puisqu'ils m'attachent à l'homme comme à un spectacle. Et puis, qui mesure dans toute sa profondeur la modestie du vaniteux ? Je veux du bien au vaniteux, et j'ai pitié de lui à cause de sa modestie. C'est de vous qu'il veut apprendre la foi en soi-même. Il se nourrit de vos regards, c'est dans votre main qu'il cueille l'éloge. Il aime à croire en vos mensonges, dès que vous mentez bien sur son compte, car au fond de son cœur il soupire « Que suis-je ?» Et si la vraie vertu est celle qui ne sait rien d'elle-même, eh bien, le vaniteux ne sait rien de sa modestie. Mais ceci est ma troisième sagesse humaine, que je ne laisse pas votre timidité me dégoûter de la vue des méchants. Je suis bien heureux de voir les miracles que fait éclore l'ardent soleil. Ce sont des tigres, des palmiers et des serpents à sonnette. Parmi les hommes aussi, il y a de belles couvées d'ardent soleil, et chez les méchants, bien des choses merveilleuses. Il est vrai que, de même que les plus sages parmi vous ne me paraissent pas tout à fait sages, ainsi j'ai trouvé la méchanceté des hommes au-dessous de sa réputation. Et souvent je me suis demandé en secouant la tête, « Pourquoi sonnez-vous encore, serpent la sonnette ?» En vérité, il y a un avenir, même pour le mal, et le midi le plus ardent n'est pas encore découvert pour l'homme. Combien y a-t-il de choses que l'on nomme aujourd'hui déjà les pires des méchancetés, et qui pourtant ne sont que larges de 12 pieds et longues de 3 mois. Mais un jour viendront au monde de plus grands dragons, car pour que le surhumain ait son dragon, le surdragon qui soit digne de lui, il faut que beaucoup d'ardents soleils réchauffent les humides forêts vierges. Il faut que vos sauvages soient devenus des tigres et vos crapauds venimeux des crocodiles. Car il faut que le bon chasseur fasse bonne chasse. Et en vérité, justes et bons, il y a chez vous bien des choses qui prêtent à rire, et surtout votre crainte de ce qui jusqu'à présent n'a été appelé démon. Votre âme est si loin de ce qui est grand que le surhumain vous serait épouvantable dans sa bonté. Et vous autres sages et savants, vous fuiriez devant l'ardeur ensoleillée de la sagesse où le surhumain baigne la joie de sa nudité. Vous autres hommes supérieurs que mon regard a rencontrés, ceci est mon doute sur vous et mon secret. Je devine que vous traiteriez mon surhumain de démon. Hélas, je me suis fatigué de ces hommes supérieurs. Je suis fatigué des meilleurs d'entre eux. J'ai le désir de monter de leur hauteur toujours plus haut, loin d'eux, vers le surhumain. Un frisson m'a pris lorsque je vis nus les meilleurs d'entre eux. Alors, des ailes m'ont poussé pour planer ailleurs dans des avenirs lointains. Dans des avenirs plus lointains, dans les midis plus méridionaux que jamais artiste n'en a rêvé. Là-bas où les dieux ont honte de tous les vêtements. Mais je veux vous voir travestis, vous, ô hommes, mes frères et mes prochains, et bien parés, et vaniteux, et dignes, vous, les bons et justes. Et je veux être assis parmi vous, travestis moi-même, afin de vous méconnaître et de me méconnaître moi-même, car ceci est ma dernière sagesse humaine. Ainsi parlait Zarathoustra. L'heure la plus silencieuse. Que m'est-il arrivé, mes amis ? Vous me voyez bouleversé, égaré, obéissant malgré moi, prêt à m'en aller. Hélas, à m'en aller loin de vous. Oui, il faut que Zarathoustra retourne encore une fois à sa solitude. Mais cette fois-ci, l'ours retourne sans joie à sa caverne. Que m'est-il arrivé? Qui m'oblige à partir? Hélas, l'autre, qui est ma maîtresse en colère, le veut ainsi. Elle m'a parlé. Vous ai-je jamais dit son nom? Hier, vers le soir, mon heure la plus silencieuse m'a parlé. C'est là le nom de ma terrible maîtresse. Et voilà ce qui s'est passé. Car il faut que je vous dise tout pour que votre cœur ne s'endurcisse point contre celui qui s'en va précipitamment. Connaissez-vous la terreur de celui qui s'endort? Il s'effraie de la tête aux pieds, car le sol vient à lui manquer et le rêve commence. Je vous dis ceci en guise de parabole. Hier, à l'heure la plus silencieuse, le sol m'a manqué. Le rêve commença. L'aiguille s'avançait. L'horloge de ma vie respirait. Jamais je n'ai entendu un tel silence autour de moi, en sorte que mon cœur s'en effrayait. Soudain, j'entendis l'autre qui me disait sans voix « Tu le sais, Zarathoustra ?» Et je criais d'effroi à ce murmure, et le sang refluait de mon visage, mais je me tus. Alors l'autre reprit sans voix. « Tu le sais, Zarathoustra, mais tu ne le dis pas. » Et je répondis enfin avec un air de défi. « Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire. » Alors l'autre reprit sans voix. « Tu ne veux pas, Zarathoustra. Est-ce vrai ? Ne te cache pas derrière cet air de défi. » Et moi de pleurer et de trembler comme un enfant et de dire « Hélas, je voudrais bien, mais comment le puis-je ? Fais-moi grâce de cela, c'est au-dessus de mes forces. » Alors l'autre reprit sans voix « Qu'importe de toi, Zarathoustra ? Dis ta parole et brise-toi. » Et je répondis « Hélas, est-ce ma parole ? Qui suis-je ? J'en attends un plus digne que moi, je ne suis pas digne même de me briser contre lui. » Alors l'autre reprit sans voix « Qu'importe de toi ? Tu n'es pas encore assez humble à mon gré. L'humilité a la peau la plus dure. » Et je répondis « Que n'a pas déjà supporté la peau de mon humilité ? J'habite au pied de ma hauteur. L'élévation de mes sommets, personne ne me l'a jamais indiqué, mais je connais bien mes vallées. » Alors l'autre reprit sans voix, « Ô Zarathoustra, qui a des montagnes à déplacer, déplace aussi des vallées et des bas-fonds. » Et je répondis, « Ma parole n'a pas encore déplacé de montagnes, et ce que j'ai dit n'a pas atteint les hommes. Il est vrai que je suis allé chez les hommes, mais je ne les ai pas encore atteints. » Alors l'autre reprit sans voix, « Qu'en sais-tu ? La rosée tombe sur l'herbe au moment le plus silencieux de la nuit. » Et je répondis, « Ils se sont moqués de moi lorsque j'ai découvert et suivi ma propre voix. Et en vérité, mes pieds tremblaient alors. Et ils m'ont dit ceci, « Tu ne sais plus le chemin, et maintenant tu ne sais même plus marcher. » Alors l'autre reprit sans voix, « Qu'importe leur moquerie ? Tu es quelqu'un qui a désappris d'obéir. Maintenant, tu dois commander. Ne sais-tu pas quel est celui dont tous ont le plus besoin ? Celui qui ordonne de grandes choses. Accomplir de grandes choses est difficile. Plus difficile encore d'ordonner de grandes choses. Et voici ta faute la plus impardonnable. Tu as la puissance et tu ne veux pas régner. » Et je répondis, « Il me manque la voix du lion pour commander. » Alors l'autre me dit encore comme en un murmure, « Ce sont les paroles les plus silencieuses qui apportent la tempête. Ce sont les pensées qui viennent comme portées sur des pattes de colombe qui dirigent le monde. Ô Zarathoustra, tu dois aller comme le fantôme de ce qui viendra un jour. Ainsi tu commanderas, et en commandant tu iras de l'avant. » Et je répondis, j'ai honte. Alors l'autre me dit de nouveau sans voix, il te faut redevenir enfant et sans honte. L'orgueil de la jeunesse est encore sur toi, tu es devenu jeune sur le tard. Mais celui qui veut devenir enfant doit surmonter aussi sa jeunesse. Et je réfléchis longtemps en tremblant. Enfin je répétai ma première réponse, je ne veux pas. Alors il se fit autour de moi comme un éclat de rire. Hélas, que ce rire me déchirait les entrailles et me fendait le cœur. Et une dernière fois, l'autre me dit, « Ô Zarathoustra, tes fruits sont mûrs, mais toi, tu n'es pas mûr encore pour tes fruits. Il te faut donc retourner à la solitude, afin que ta dureté s'amollisse davantage. » Et de nouveau, il y eut comme un éclat de rire et une fuite. Puis tout autour de moi se fit silencieux, comme un double silence. Mais moi, j'étais couché par terre, baigné de sueur. Maintenant, vous avez tout entendu. C'est pourquoi il faut que je retourne à ma solitude. Je ne vous ai rien caché, mes amis. Cependant, je vous ai aussi appris à savoir quel est toujours le plus discret parmi les hommes, et qui veut être discret. Hélas, mes amis, j'aurai encore quelque chose à vous dire. J'aurai encore quelque chose à vous donner. Pourquoi est-ce que je ne vous le donne pas ? Suis-je donc avare ? Mais lorsque Zarathoustra eut dit ces paroles, la puissance de sa douleur s'empara de lui à la pensée de bientôt quitter ses amis, en sorte qu'il se mit à sangloter. et personne ne parvenait à le consoler. Pourtant, de nuit, il s'en alla tout seul, en laissant là ses amis.